Allô, allô, ici Ciné Harry.
Le cinéaste britannique Martin Rhett réalise en 1965 un film d'espionnage en noir et blanc, The Spy Who Came In From the Cold, l'espion qui venait du froid, une adaptation fidèle de l'œuvre éponyme publiée 2 ans plus tôt par l'écrivain John le Carré, un ancien agent secret, diplomate et professeur à Eton. Il s'agissait alors de son premier roman qui rencontra d'emblée un grand succès. Il permit à John le Carré de remporter le prix Somerset Maugham et l'ouvrage fut traduit en 11 langues. Quant au film que nous allons analyser, il connut également un large succès. La musique triste et nostalgique de Saul Kaplan et la photographie en noir et blanc très sombre et particulièrement esthétisante d'Oswald Morris ont largement contribué à faire de ce film un chef-d'œuvre. Outre la star britannique Richard Burton, qui interprète le personnage principal, mentionnons Claire Bloom et le comédien autrichien Oscar Werner, que le public français avait découvert et apprécié 3 ans auparavant dans l'œuvre de Truffaut, Jules et Jim. L'histoire se situe en pleine guerre froide, spatialement au cœur même de la guerre froide, autrement dit à Berlin, où le mur tient dans le film une place tout à fait éminente, mais elle se déroule aussi en Angleterre et aux Pays-Bas. Le récit met en scène l'agent secret britannique Limas. Celui-ci voit tout son réseau détruit, tous ses agents anéantis les uns après les autres. Sa hiérarchie lui demande donc de se faire passer pour un transfuge afin de parvenir ainsi à gagner la confiance des services du contre-espionnage d'Allemagne de l'Est. Il s'ensuit une cascade de mensonges, de dissimulations et de manipulations, un engrenage impitoyable de trahison où tout n'est plus que jeu d'ombre, les identités des uns et des autres disparaissant au profit de la seule raison d'État, elle-même totalement abstraite. Le profil de l'agent Limas est opposé en tout point à celui de James Bond, matricule 007, un personnage flamboyant créé en 1953 par l'écrivain britannique Ian Fleming, lui aussi ancien espion de Sa Majesté. Limas est tout le contraire. Le personnage que Burton compose magistralement à l'écran est fidèle à celui du roman, et c'est celui d'un anti-héros. De sorte que le spectateur découvre un homme terriblement seul, terne, accablé, sans autre perspective que la mort, un être dépressif, vide, suicidaire et fini. Son alcoolisme n'est pas mondain et festif comme celui de James Bond, il est au contraire addictif et destructif. Limas apparaît comme un pion, manipulé par sa hiérarchie, et au-delà de cette dernière, par les États et plus encore par le système international qui revêt alors les formes de la guerre froide. C'est un pion, consentant et lucide, qui a conscience de ce que l'on fait de lui. Il n'est pas dupe, il est sans illusion et sans espoir. Je ne crois pas au Père Noël, je ne crois pas en Dieu ou en Karl Marx, je ne crois pas à ce qui fait trembler le monde. Il ne croit pas qu'un camp, qu'un bloc soit meilleur que l'autre, à la différence de son amie qui est, elle, membre du Parti communiste britannique et croit au lendemain qui chante avec beaucoup de candeur, de générosité et de fraîcheur. A contrario, Limas est volontiers sarcastique. Cependant, il ne se révolte pas et ne déploie aucune énergie pour changer le cours politique des choses. Il serait plutôt aboulique. Il exécute donc simplement les ordres qu'il reçoit, applique les consignes, remplit les missions qui lui incombent, pas plus et pas moins. Il ne s'implique pas affectivement dans ce qu'il fait. Il est aussi étranger à lui-même qu'il est étranger au monde qu'il sert. C'est un observateur, narquois et désabusé. En somme, c'est une espèce de mort-vivant qui donne l'impression de ne croire en rien et de ne penser à rien ni à personne. Il est émotionnellement mort et donne à voir au spectateur un homme en pleine déréliction. Autant dire que le froid mentionné dans le titre du film, c'est moins le froid de l'Est que celui d'univers politique totalement implacable. Le froid d'un espace international où le calcul diplomatico-stratégique, la froide rationalité, semble réduire les hommes à n'être que des variables d'ajustement. C'est aussi le froid engrenage des mensonges, des subterfuges et autres stratagèmes, des manipulations, des coups en cascade, des coups de billard à plusieurs bandes, des complots, des conspirations et des trahisons qui prennent les personnages en étau avant de les anéantir. Enfin, c'est d'abord et avant tout bien sûr le froid de la guerre froide, mais une guerre froide d'où toute logique politique serait absente, une guerre froide présentée comme totalement absurde, sans acteurs véritables puisqu'ils sont tous interchangeables, et non guère d'identité, ni de préférence partisane. Les rôles sont également interchangeables. Par exemple, le responsable du service de renseignement d'Allemagne de l'Est, Mundt, d'accusateur en chef, devient vite l'accusé numéro 1, avant d'être réinstallé dans ses fonctions et avant que l'on apprenne finalement que le traître, c'est lui. Quant à l'agent Fiedler, qu'il avait fait arrêter et traduire devant un tribunal, il sera à son tour arrêté et exécuté. Les rôles sont donc sans cesse inversés, comme les situations. Il n'y a pas de vérité qui tienne, semble nous dire Martin Ritt, fidèle en cela à John le Carré. La guerre froide qui nous est présentée dans ce film est sans cause et sans finalité, sans projet, et ce qui peut sembler plus surprenant encore, sans idéologie. Une guerre froide sans rationalité non plus. Ou plus précisément, il s'agit d'une guerre froide à la rationalité qui tourne à vide, sur elle-même, telle une folle mécanique où toute idéologie a disparu. Ceci confère ainsi au film une dimension paradoxalement assez intemporelle, ce qui lui permet d'apparaître aujourd'hui aussi paradigmatique et non daté. C'est un jeu absurde qui s'accomplit sérieusement devant nous, très professionnellement. Plusieurs personnages se disent d'ailleurs professionnels. Limas lui aussi le répète plusieurs fois, « Je suis un technicien ». Mais c'est un jeu mortifère qui conduit chacun à la mort. Comment ne pas songer ici, bien sûr, à la notion d'irrationalité de la rationalité avancée par le politiste Pierre Asner. Mais c'est aussi le froid des cœurs, le froid intérieur de Limas, le froid de la distance intérieure entre lui, et entre lui et les autres. L'agent Limas est écrasé par un état du monde qui l'a déjà usé jusqu'à la corde et qui va bientôt le broyer tout à fait avec son propre consentement. Dans cet univers déshumanisé, il n'y a plus aucune place pour les affects, les émotions, les passions. Pour vivre ses sentiments, il va donc falloir que Limas accepte d'en payer le prix, en l'occurrence qu'il se résolve à mourir pour eux comme il le fera finalement. Limas est dos au mur, au sens figuré mais aussi au sens propre, car le mur de Berlin est présenté comme un personnage à part entière et joue dans le film un rôle éminent. Le premier et le dernier plan du film lui sont consacrés. Manière de boucler la boucle et d'enfermer le personnage et le spectateur avec lui. C'est peu dire que la vision du film est noire et désenchantée. Elle l'est au moins autant que celle du roman. En effet, avec la mise en scène de Martin Ritt, les plans sont constamment serrés et oppressants. Quant à l'espace, il est toujours étroit et confiné pour bien montrer au spectateur qu'il ne subsiste aucun espoir. Dans ce jeu politique qui prend pour l'agent Limas les allures d'une mise à mort, il n'y a plus rien à attendre. Laissons-lui le mot de la fin. Laissons parler Limas une dernière fois. Communisme, capitalisme, ce sont toujours les innocents qui meurent.